Europe 1.
Alors, j'aimerais qu'on s'intéresse aussi à ce qui s'est passé à Moscou ce week-end et ce qui se passe actuellement, parce qu'il y a des interpellations qui se poursuivent. Quatre terroristes présumés ont été amenés devant un tribunal dans un état apocalyptique parce qu'ils ont subi des tortures de la part des forces russes, des forces de police russes. On va faire le point tout de suite avec Adrien Spiteri et je vous passe la parole, François Pupponi.
C'est un nouveau rebondissement, 3 jours après l'attaque terroriste à Moscou. 3 nouveaux suspects ont été placés ce lundi en détention provisoire. Les assaillants présumés, eux, ont déjà été arrêtés. Enfermés dans une cage de verre, ils ont comparu hier, tous blessés. 3 d'entre eux ont plaidé coupables. Ils encourent la prison à perpétuité. Alors que les recherches dans les décombres se poursuivent, Vladimir Poutine a évoqué la piste ukrainienne démentie par Kiev et les Occidentaux. L'État islamique a pourtant revendiqué l'attaque. Une revendication que Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, refuse de commenter.
L'enquête est en cours et l'administration présidentielle aurait tort de faire des commentaires sur son déroulement.
Pendant ce temps, près du Crocus City Hall, des habitants déposent des fleurs, des peluches ou des bougies. Signe de l'émotion très vive dans le pays.
Voilà pour l'émotion à Moscou, évidemment, de la population russe, François Pupponi. Il y a aussi les visages tuméfiés des terroristes qui ont visiblement été maltraités par les policiers russes. Quand on pense aux conditions de sécurité dans lesquelles est incarcéré et a été jugé Salah Abdeslam, qui faisait partie des commandos du 13 novembre. Il y a un état de droit, il n'y a pas d'état de droit.
Rappelez-vous l'attentat de 99. Les Tchétchènes s'en rappellent encore. C'est-à-dire que les Russes vont aller... Ils vont taper partout où ils peuvent, d'une manière extrêmement violente. C'est leur manière de réagir. On voit bien comment certains opposants qui ne sont pas violents finissent. Donc imaginez, alors des terroristes sont-ils responsables? Enfin, a priori, c'est les responsables. Ils ont attrapé, on ne va pas mettre en doute le fait que l'on met... Voilà, ça va finir dans le sang, parce qu'en fait, les Russes réagissent comme ça. Et je pense que la population le demande en plus. C'est-à-dire que quand Vladimir Poutine le fait, c'est parce que la population veut effectivement qu'il y ait de la vengeance.
Rachel. Oui, mais je crois que parce qu'il y a 2 choses. Effectivement, il y a un système qui est complètement différent du nôtre et qui sort de l'état de droit. Et puis que Vladimir Poutine, en fait, c'est une faiblesse pour lui.
Évidemment.
Donc, et alors, ce qui est intéressant dans notre période, c'est que finalement, les ennemis de nos ennemis sont aussi nos ennemis. Donc là, un soutien au peuple russe, mais la consécration d'un Vladimir Poutine qui se disait un peu le moteur du Sud global, des BRICS, de parler avec l'Iran, etc., et qui se trouve dans une situation de fragilité.
Et Joseph qui n'en a pas fini, lui non plus, avec le terrorisme islamiste, parce que ça frappe Moscou en plein cœur, alors que l'État russe, soi-disant, est ultra sécurisé.
Bah, qui n'en a pas fini, encore une fois, parce que je disais que la temporalité des terroristes islamistes, des islamistes en général, est totalement différente de la nôtre. C'est, voilà. Et donc, pour eux, qu'est-ce qui résonne dans leur tête? Ils résonnent, évidemment, bien sûr, ce que le soutien de la Russie à Bachar el-Assad, enfin, un certain nombre d'eux en Syrie, les massacres qui ont été commis. Le paradoxe, c'est que toute l'argumentation de Vladimir Poutine qui consiste à se dire « je dresse la Russie contre l'Occident », sachant que nous sommes l'Occident, nous participons à l'Occident, se trouve aujourd'hui pris de court par des éléments, des islamistes qui disent « mais vous êtes l'Occident », c'est-à-dire vous, Russie, et vous êtes une seule et même entité, et une entité satanique, pour reprendre leur argumentation. Et ça, c'est véritablement terrible. Donc,
c'est pour ça qu'il n'embraye pas là-dessus, et qu'il dit c'est l'Ukraine, évidemment, c'est plus facile.
Il est prisonnier dans une sorte dans son discours. Mais ce qui frappe, c'est que Poutine, qui devait apparaître comme l'élément viril, musclé, protecteur, etc., etc., ne l'est pas.
Il est incapable de protéger sa population.
Encore une fois, je ne peux pas ne pas penser, il y a un an, il y avait l'escapade de la milice Wagner jusqu'aux portes de Moscou. Ce pouvoir est un pouvoir, je ne dis pas que ce n'est pas un pouvoir, évidemment qu'il est coercitif,
comme beaucoup de dictatures, il est coercitif. Mmh. Mais c'est pas le régime totalitaire comme il existe en Chine, par exemple. On n'est pas du tout dans le même ordre. Donc c'est un régime, fondamentalement, qui est un régime fragile. Vous savez, c'est la théorie, pardon, j'en ai parlé tout à l'heure, la théorie des signes noirs. C'est-à-dire de plus en plus de signes noirs, parfois, dans une couvée de signes, il arrive un signe noir, c'est l'aléa qui va tous nous surprendre. Eh bien, de plus en plus en Russie, il n'y a que des couvées de signes noirs.
Éric Revel.
Oui, je voulais juste dire, pour abonder dans le sens de Rachel, elle disait, oui, on appartient tous finalement à ce même espace, l'Occident, et de la même manière, la Russie est attaquée de la même manière que la France. Et alors moi, il y a un truc qui m'a quand même interrogé, c'est que le 13 novembre 2015, les fameux attentats à Paris, avec François Hollande qui assiste à un match de football qui était France-Allemagne, et on se souvient que la terreur commence à ce moment-là, que le président de la République ne quitte pas l'enceinte du stade pour pas que les gens qui sont là, qu'il y ait un mouvement de foule. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a eu un match France-Allemagne le lendemain. Oui. Eh bien, la question que je me pose, c'est si on est tous dans le même bateau et que notre ennemi commun, c'est l'islamisme, pourquoi est-ce que, pour le peuple russe, je ne parle pas de Poutine, on n'aurait pas mis en place une minute de silence là. Mais non, mais attendez, je me pose la question, puisque si on veut dire qu'on défend les mêmes valeurs...
Oui, c'était peut-être un peu tôt.
Oui, mais attendez, vous aviez un symbole magnifique, c'est ce match France-Allemagne. Oui. C'est ce match France-Allemagne du 13 novembre 2015. Eh bien, on avait un symbole magnifique. Il ne s'agit pas d'encenser Poutine, il s'agit juste de dire, vous avez vécu la même chose que nous, donc nous sommes solidaires
avec le peuple civil.
Eh bien, il ne s'est rien passé et il n'y a pas eu de commentaires quasiment.
C'est vrai. Louis, vous êtes d'accord avec ça ?
Moi, je suis d'accord avec vous là-dessus, et je tiens à noter aussi que Emmanuel Macron, pour le coup, a immédiatement.
Il a apporté son
soutien aux Russes.
Les chefs d'État
ont été victimes.
Oui.
Les chefs d'État. Il a rappelé qu'il y avait, en dépit des dissensions énormes de
stratégie. C'est le ministère des Affaires étrangères qui a régi
entre la France et la Russie. Emmanuel Macron a rappelé que sur la lutte en matière de lutte contre le terrorisme et particulièrement islamique, le renseignement français continuait de travailler avec le renseignement russe. Et que, alors, est-ce que c'est de la posture ou pas? Moi, ce que je sais, c'est que les services travaillent encore ensemble. Et donc, il a fait savoir que la France, si elle avait des informations à donner à la Russie en matière de lutte contre le terrorisme islamique,
elle devait le faire.
Moi, je trouve que il y a un message quand même qu'on peut retenir dans cette communication. C'est que la lutte contre le terrorisme islamique est celle qui écrase tout. C'est-à-dire que vous avez beau vous battre, il y a des guerres territoriales. Évidemment, Emmanuel Macron a eu des mots extrêmement durs contre Vladimir Poutine au sujet de la guerre en Ukraine. Mais en matière de lutte contre le terrorisme islamique, eh bien, on continue de se parler en dépit de tous nos désaccords sur la guerre en Ukraine.
Joseph, vous êtes d'accord avec ça ou pas ?
Totalement, mais là, moi je trouve que justement Emmanuel Macron a réagi vite, il a réagi bien. Il a réagi fermement, et il l'a fait alors qu'à Moscou même, on niait l'évidence.
Et on continue.
Parce qu'on continue à nier l'évidence. Ce qui me frappe, nous sommes tous ici autour de cette table énormément sur les réseaux sociaux. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a eu, sauf vous bien sûr, mais il y a eu, ça a été, la tragédie a été une bombe à fragmentation dans les fermes à trolls russes.
C'est-à-dire que c'est les trucs sur les réseaux sociaux, les trolls.
S'éparpiller partout des gens qui tenaient un discours pro-Poutine en permanence parce qu'ils ne savaient plus où ils étaient. Tout simplement, ils s'invectivaient même eux-mêmes, ils disaient des éléments contradictoires. Parce que comment pouvez-vous suivre cette doxa ? Qui est évidemment une négation pure de la réalité.
Oui, Poutine ne peut pas dire autre chose que ce qu'il dit, c'est la faute aux Ukrainiens, parce que si effectivement il avoue que c'est effectivement l'État islamique qui a fait ça, c'est un tel constat d'échec et d'aveu de faiblesse par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, que c'est insupportable pour lui.
Oui et non, parce que regardez, quel pays en Occident peut dire « j'ai une assurance, le risque zéro n'existe pas ». Même nous, Français qui avons un arsenal juridique extrêmement renforcé, l'un des plus puissants en Europe.
N'oublions pas qu'il est venu au pouvoir grâce à un attentat dont on...
Vous avez raison, mais aujourd'hui, quel chef d'État peut dire... Moi, ça ne m'arrivera jamais.
Il est pris à son propre pied.
Il y a une forme d'humilité à avoir,
Joseph. Pardon, comme disait Rachel tout à l'heure, donc c'est Rachel, entre deux. C'est-à-dire que le propre. Voilà, Poutine qui a justifié, légitimé son agression en Ukraine en disant nous allons lutter contre les nazis. Voilà. Et ce faisant, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, le digne héritier du totalitarisme nazi, c'est l'islamisme. Mmh. Voilà. Donc là, il se trouve évidemment totalement pris dans son propre jeu.
Rachel, vous disiez les ennemis de nos ennemis sont nos ennemis, effectivement, mais ça ne veut pas dire que ce sont nos amis. Exactement. Nos ennemis. Voilà. Enfin bon, exactement. Excusez-moi, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais vous dire.
Tout à fait. C'est tout à fait ça. Et effectivement, on parlait de cette déclaration de Vladimir Poutine tout à l'heure lorsqu'il lance son opération militaire spéciale où il a martelé pendant des mois sur la dénazification. Et effectivement, il est pris à son propre jeu. Je voulais juste rebondir sur la question des stades et des hommages dans les stades. Je trouve effectivement la remarque d'Éric très pertinente parce que les stades, et parce qu'on est dans cette année olympique, c'est à la fois le pire et le meilleur. Mmh. C'est à la fois le Veldiv, c'est à la fois ce qu'il a pu se passer au Rwanda dans les stades, mais aussi le symbole d'une humanité qui se tient, ensemble.
Mais est-ce que vraiment c'est le lieu où il faut rendre hommage
C'est compliqué. Oui, parce
comme
que
ça, à chaud tout de suite. Moi, je comprends qu'on ait pris quelques jours, honnêtement,
Il y a le mot paix inscrit partout par rapport à la guerre en Ukraine. Mmh. Voilà, donc on est capable de le faire dans les stades pour rappeler à la paix en Ukraine. Mais effectivement, là, par rapport à un attentat, chaque fois que tu dis attentat majeur, les sportifs ont réagi.
Oui.
Mais là, c'est encore plus compliqué parce que.
Mais ils vont le faire, ils vont réagir.
Mais on a interdit aux Russes de venir aux Jeux Olympiques.
Je suis d'accord avec vous parce qu'à partir du moment où nous, on considère et on martèle tout le temps qu'il n'y a pas de double standard, c'est-à-dire que la vie d'une victime, quelle qu'elle soit, vaut la vie d'une autre victime dans un autre cadre. Pour moi, la vie d'une victime du Bataclan, évidemment, je suis français, je suis un peu chauvin, donc elle vaut un peu plus que celle des autres. Mais globalement, il n'y a pas de raison de moins s'émouvoir.
En plus,
la Tour Eiffel en civil, mais dans le cadre d'un attentat qui a été éclairé.
En plus, c'est exactement la même chose. C'est un concert avec un groupe de rock russe, de pique-nique. C'est des gens qui assistent à un concert.
Ah oui, c'est
l'islamisme qui ne veut pas de ce type de culture occidentale. Le Bataclan, c'est la même chose. On avait ce match dans J'y reviens le 13 novembre 2015.
Non, mais ça,
on avait ce match-là, France-Allemagne. On aurait très bien pu.
Après, il n'y a pas que les matchs dans la vie, Eric.
Mais non, mais c'est pas ça. C'est au niveau du symbole.
Mais je suis d'accord avec vous sur le.
Avoir une minute de silence pour le peuple russe. Mais ça aurait été un geste. Alors là, pour le
coup, elle aura lieu demain.
Ça aura lieu demain.
Sur l'inscription demain, au de la constitution de l'IVG. Mais là, on aurait marqué les esprits du monde entier.
Demain, ça vous ira à la minute de silence demain.
Mais là, c'était le symbole France-Allemagne. Parce que c'était le 13 novembre 2015.
Bien sûr, c'est pas une date anecdotique.
2-0 à l'époque.
Un dernier mot, Joseph Massescaron. On va recevoir dans un instant Thibault de Montbrial, qui est le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. On a l'impression qu'effectivement, on ne se débarrassera jamais du terrorisme en réalité. C'est une menace à laquelle il va falloir faire face pendant des années. Et je parle du terrorisme islamiste, évidemment, parce que c'est celui-là qui tue aujourd'hui dans notre pays et dans le monde.
Je pense que c'est difficile parce que malheureusement, je dis bien malheureusement, il y a une grande porosité entre différentes formes d'islamisme, c'est-à-dire entre un islam traditionnel, qui n'est pas terroriste, évidemment, bien évidemment, mais un islamisme, c'est-à-dire il y a une sorte de passage progressif qui se fait. Je parlais tout à l'heure, mais vraiment à dessein, c'est-à-dire que il y a eu un grand moment dans l'islam, qui est le moment des Omeyyades, qui est à la fois d'une civilisation extrêmement brillante, et puis à un moment donné aussi où s'est posé la question, est-ce que le Coran est un livre créé ou incréé ? Il a été opté pour le fait que le Coran était un livre incréé. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous ne pouvez pas discuter un texte, se pose tout un ensemble de questions et tout un ensemble de problèmes.
Un peu propre à toutes les religions, même.
Vous allez progressivement, pardonnez-moi.
Non. C'est pas propre à toutes les religions.
D'avoir
un texte. On peut le retoucher, évidemment.
Non, il y a celui qui s'interprète, il y a le texte qui ne s'interprète pas.
Dans la religion juive, il y a évidemment, bien sûr, le Talmud. Il y a aussi ce qu'on appelle le pilpoul, la discussion. D'ailleurs, on ironise souvent en disant quand on pose une question à un juif, il vous répond par une autre question. C'est vraiment une des particularités. Et puis aussi, progressivement, bien sûr, dans la religion chrétienne, il y a eu tous les conciles qu'il y a eu. C'est quelque chose, bien, vous le savez mieux que moi.
On joue avec le feu, parce que tous les acteurs en place en Syrie, en Irak, disent « Daesh n'est pas mort ». Ils sont encore là, ils ont les financements. Et ce qu'ils essayent de faire, c'est de libérer les 15 000 djihadistes qui sont gardés par les Kurdes au Rojava.
Exactement. Et qu'est-ce qu'on
fait ? Les Turcs attaquent les Kurdes, on dit rien, et même pire, les services français sont en train de dénoncer les Kurdes en France auprès des autorités turques pour qu'ils soient renvoyés en Turquie. Donc sincèrement, il y a un moment, moi, pour être proche de la communauté kurde, ils nous disent, à un moment, on va vous les libérer.
Quoi. C'est ça. Et on aura 15 000 terroristes sur les routes.
On se protège. Et en plus, ça coûte de l'argent.
On se fait bombarder par Erdogan, vous nous embêtez sur le propre sol français, et vous nous demandez de continuer à vous protéger. Il y a un moment, on va arrêter. Bon. Donc il faut qu'on fasse très attention, parce que Daesh est toujours actif.
Vous avez absolument raison, François.